Nous poursuivons notre histoire sainte pour l'achever en quelque sorte, parce que nous allons arriver à notre Seigneur. Alors comment je vais faire pour passer tous ces prophètes en si peu de temps? D'abord parce que j'ai commencé déjà à vous parler des prophètes, mais aussi parce que pendant 400 ans environ, il n'y aura plus de prophètes avant le Christ. Donc forcément, ça va plus vite. Alors vous me direz, je pourrais vous faire l'histoire des guerres, des ultimes guerres et des martyrs d'Israël au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, mais ça ne serait plus un catéchisme, ça serait de l'histoire sainte pure. Mon but étant justement d'arriver aussi au dogme et à la foi et à la morale, grosso modo en une année. Alors, si vous prenez le petit paquet de feuilles que je vous ai transmis et que je vais lire totalement à haute voix, Jésus-Christ est le Messie annoncé par les prophètes. Ici, vous avez les références biblique. Donc vous tournez les deux pages et vous les posez sur le côté. Vous avez après un petit schéma qui n'est pas forcément dans la chronologie la plus classique, avec des expressions, voilà. Mais je suis tellement surmené que, comment dire, je vous fais les choses en récupérant ce qui convient grosso modo à ce que je crois juste, mais je n'ai pas encore élaboré tout à fait un catéchisme avec un support papier parfait, mais ça viendra avec le temps si je le fais chaque année. Mais imaginez que je fasse aussi l'histoire des conciles et des dogmes. Mais l'histoire des sacrements, enfin d'étudier les sacrements à la manière que j'ai étudié l'histoire sainte, hein, donc nous verrons ça plus tard, avec le même enthousiasme, je veux dire. Donc vous avez Abraham. Il est très important, si on veut connaître la foi, si pour des catéchumènes, de savoir pourquoi, comment nous avons des relations avec les enfants d'Abraham, avec les musulmans, et qui prennent de l'Ancien Testament de nombreux éléments, mais qui en prennent aussi de l'Évangile. Il était important de savoir que le Christ est justement de la racine de Jessé, qui était le père de David. Tout cela, nous l'avons vu ensemble. Donc nous allons le voir en quelques secondes, là maintenant. Abraham, environ 2000 avant Jésus-Christ, hein, plus précisément c'est plutôt 1700, parce qu'il n'y a que trois générations entre Abraham, Isaac, Jacob, Israël, son fils Joseph, et l'installation des Hébreux en Égypte, environ 1700. Les Hébreux vont être en Égypte environ 450 ans. Et Moïse va faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. Alors, l'histoire sainte donc est fondée sur Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, fils de Jacob Israël. Ils partent en Égypte pour y être environ 5 siècles. Et Moïse, où sont les miracles? Où est la preuve de la divinité de cette parole donnée à Moïse et surtout donnée à Abraham? Eh bien, là, pour le coup, pour Abraham, c'est la fécondité de son épouse qui avait 80 ans, donc il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y a un miracle initial dans Abraham, dont son fils Isaac.
Et ainsi, il y a authentification d'une parole de Dieu.
Après, il y a certains miracles. Enfin, Isaac, Jacob, c'est le fait de parler à Dieu et d'avoir des locutions de Dieu. Jacob a une vision des anges à l'endroit même où il se repose, et il a un entretien, un long entretien avec un ange qui se termine par un combat qui lui mérite le nom d'Israël, fort face à Dieu. Donc il y a des miracles. Mais les miracles les plus importants viendront par Moïse et les 10 plaies d'Égypte, et surtout les 40 ans dans le désert avec ses colonnes de nuit. Cela est important parce que dans l'historique du peuple juif, quand Jésus dit qu'il va venir sur les nuées, ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que la nuée, c'est la présence divine. Donc, il y a 2000 ans, ou 1985 ans, n'est-ce pas, quand Jésus dit « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel », il est en train de leur dire qu'il est Dieu. Il est ce Dieu qui, pendant 40 ans au désert, était présent dans la nuée, le jour et la nuit. Donc si nous ne connaissons pas quelque peu cette histoire sainte, eh bien, il nous manque la raison pour laquelle certains textes doivent nous parler lorsque nous les entendons, le dimanche. Vous verrez donc sur les 54 dimanches d'une année, tout vous est dit de la révélation divine. Mais il est bon, et nos ancêtres analphabètes, tout était mis sur les statues, tout était mis sur les vitraux, tout était mis dans leurs églises, dans les peintures, tout ce que je vous ai dit. Pourquoi il y avait une représentation d'Abraham? Pourquoi il y avait une représentation d'Isaac? Pourquoi il y avait une représentation de Moïse dans les églises? Eh bien, c'était pour expliquer tout cela. Lorsque il y a les promesses constante d'un sauveur, d'un envoyé, d'un messie, de celui qui va être imprégné de la grâce, de l'aide de Dieu, de la force de Dieu, qui sera oin, en grec, Christ. Vous voyez ? Eh bien, cet élu va venir. Lorsque les Juifs donc reviennent en Terre Sainte, le roi David, son fils Salomon, la division de Sichem, regardez la feuille, donc l'an 1000, c'est environ, c'est le roi David. La division de Sichem, 930, c'est le petit-fils de David, Roboam, qui est odieux, et qui provoque la séparation entre le royaume du nord et le royaume du sud, le royaume d'Israël et le royaume de la tribu de Juda, de Benjamin. Vous avez l'invasion assyrienne du nord, et donc les Hébreux sont du nord sont mélangés avec des païens, sont emportés en exil, emmenés en exil, sont déportés, donc c'est le malheur pour Israël. L'invasion babylonienne en 587 va toucher le royaume du sud, le royaume de Juda. Cela va être confirmé par la domination perse. Mais, justement, les Perses vont faire revenir le peuple hébreu en Terre Sainte, après l'exil de Babylone, qui durera, donc normalement, qui dure 70 ans. Et donc, les Perses, lorsqu'ils auront détruit l'empire babylonien, pardon. Donc l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire perse qui se succèdent. Il y a une vision d'un prophète, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais tout cela pour vous dire, domination grecque en l'an 333, domination romaine en l'an 63 avant Jésus-Christ. Mais ce peuple n'est plus libre depuis les années 700, depuis les années 580. Vous dites, enfin, on est le peuple élu, on est aimé de Dieu, et on n'arrête pas d'être envahi, on est occupé. Imaginez que la France soit allemande depuis 1940 et que les Allemands ne soient pas partis. Alors, on ne parlerait peut-être pas tous allemand actuellement, je pense qu'on aurait gardé le français, même occupé, vous voyez. Mais imaginez qu'on soit occupé depuis 1940. Je dirais, oui, la France, fille aînée de l'Église, aimée par Dieu, mais enfin, voilà, pas débarrassée des occupants. Eh bien, imaginez que ça dure 700 ans. C'est vexant pour le peuple de Dieu. Eh bien, les prophètes vont venir leur dire, mais c'est pour vous punir que Dieu vous permet cette occupation. Parce que vous n'êtes pas encore assez sincères, parce que vous n'êtes pas encore convertis, parce que vous avez des rois qui sont irreligieux, des rois qui vous poussent à l'idolâtrie et que vous tolérez. Vous avez des prophètes qui leur disent dans pas longtemps, vous allez, la ville va être prise, à moitié incendiée, la moitié vont mourir, mais comme c'est une punition divine, eh bien vous allez devoir tolérer ça gentiment. Attendez, et puis le bon Dieu vous laissera en paix sous l'occupation. Alors eux, ils sont pas contents du tout. Ils disent, oh ben non, on va se battre, on va pas tolérer cette occupation. Et ils résistent encore plus, et il y a encore plus de morts. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas écouté le prophète qui leur avait dit d'être calme. Et donc vous avez un autre prophète qui va leur dire, bon, maintenant que vous êtes à Babylone, vous allez y rester au moins 70 ans. Mais qui vous a dit ça? Ben Dieu. Et alors c'est la vie du prophète, c'est la sainteté personnelle du prophète, la vie de prière qui authentifie sa parole, et puis qui s'accomplit plus tard. Parce que le prophète qui leur a dit mais de rester calme à Babylone, de s'installer, de fonder des familles et d'attendre que la punition divine s'arrête et qu'ils puissent revenir en Terre Sainte, ça s'est appliqué 70 ans plus tard. Vous voyez? Donc le prophète avait raison. Et à vue humaine, c'était impossible, quasiment impossible. D'ailleurs, quand ils reviennent, ils voient le temple de Jérusalem complètement détruit. Parce que le beau temple de Salomon, complètement détruit. Alors ils pleurent beaucoup. Ils reconstruisent le temple, mais ils sont encore sous domination perse. Ah, l'empereur leur donne de l'argent pour refaire un peu le temple. Mais il est tout petit par rapport à l'ancien temple de Salomon, il est moins joli. C'est le deuxième temple. Et alors, vous allez me dire, le temple d'Hérode, c'est quoi? Eh bien, c'est le temple du retour d'exil de Babylone qui va être rehaussé par Hérode. Mais pas détruit et reconstruit. Le petit temple du retour d'exil va être conforté, on va lui mettre des murs supplémentaires sur les côtés, on va faire des ornementations, on va refaire les deux grandes tours devant le temple. Mais on ne le change pas véritablement. On l'embellit énormément pendant près de 50 ans, 45 ans de travaux. Vous voyez, mais imaginez un petit immeuble tout maigrelet dans le 4e arrondissement, et puis vous avez une entreprise qui installe des logements pour ses ouvriers et qui en fait un palace, mais qui utilise les structures, les murs, les fondations et qui en rajoute. C'est ça le deuxième temple, et c'est ça le temple d'Hérode. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Romains vont détruire le deuxième temple en l'an 70 après Jésus-Christ, eh bien, il n'a pas été reconstruit depuis. Et le mur des lamentations qu'il y a à Jérusalem actuellement, c'est un mur de fond, ce sont des murailles proches du temple, mais qu'on peut estimer être très anciennes et peut-être ayant même connu le temple de Salomon. Pourquoi des lamentations? Parce que le peuple juif, lui, attend que le Messie entre dans ce temple. Alors pour les Juifs qui ont cru en Jésus comme leur Messie, ben, ils se sont dilués, c'était les premiers chrétiens pendant des siècles, Et ils se sont mariés avec des non-juifs d'origine, et donc on ne les voit plus. Mais tous les premiers chrétiens étaient bien sûr juifs et reconnaissaient Jésus comme leur Messie. Mais ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Messie, du coup ils disent, mais pour que le Messie soit reconnaissable, il faut qu'il entre dans le temple. Mais s'il n'y a plus de temple, comment il va y rentrer? Donc il faut reconstruire le temple, d'où le troisième temple, dont on parle en ce moment. Mais pour reconstruire le troisième temple, il y a une toute petite difficulté, c'est qu'il y a une esplanade qui est à la place du temple, et il y a des mosquées, et une grosse mosquée, enfin moyenne, mais très ancienne, au-dessus de l'autel des sacrifices, du rocher d'Abraham, et de l'endroit où les musulmans disent que Mahomet a fait un voyage nocturne. Il est allé à Jérusalem, et il serait parti de cette roche pour aller quelque part, enfin au ciel. Pour les chrétiens et les juifs, ce voyage est faux ou fantasmagorique. Mais pour les musulmans, c'est non. Mahomet a eu vraiment une vision. Et donc, si vous détruisez la mosquée d'Al-Aqsa, pour reconstruire le troisième temple de Jérusalem, il faut auparavant tuer beaucoup de musulmans pour qu'ils soient très très calmes. Voilà. C'est tout. Mais même les Indonésiens ne seraient pas contents du tout. Hein. Ne vous pensez pas que les Indonésiens soient... ou les Malaisiens soient des musulmans qui se diraient « Oh tiens !» Oui, c'est comme nous, on dirait « Tiens, on a dynamité la basilique du Vatican. » Oh, ben, c'est pas très grave, de toute façon, une église de plus de moins. Mais bon. Mais en effet, nous ne devons pas, nous, en tant que chrétiens, tenir à un lieu unique. Même s'il y a des lieux sacrés, eh bien, l'important, c'est la présence du Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Christ dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour un juif, c'est blessant. Sauf si le nouveau temple, c'est Jésus. Alors, oui, on comprend mieux. L'arche d'alliance, c'est Jésus. Il est uni dans sa nature humaine à la nature divine. On n'a plus besoin du temple de pierre. Seulement quand vous avez 1000 ans de tradition, 1400 ans si vous tenez compte de l'arche d'alliance sous les peaux de moutons depuis Moïse, n'oubliez pas que pendant 400 ans, plus de 400 ans, vous avez de Moïse à David, l'arche d'alliance était dans une petite ville sacerdotale où le grand prêtre habitait. Et c'était pas à Jérusalem. Donc, Abraham environ 2000 avant Jésus-Christ, l'installation des Hébreux en Égypte environ 1700, Moïse environ 1250. Et là, comment dire, Moïse sorti d'Égypte. Donc ça, ces chiffres-là, c'est plutôt parfois 1400 que 1200. Tout le monde est quasiment d'accord sur la 1000 ans avant Jésus-Christ pour David. 930, la division des deux royaumes. L'invasion assyrienne en 721 et la Samarie. Mais la Samarie qui devient vraiment néo-païenne par rapport au schisme religieux de l'an 930. L'invasion babylonienne en 587 et la destruction du temple. La domination perse, le retour d'exil de Babylone, la reconstruction d'un petit temple et la vie du peuple hébreu, sans prophète, avec les Grecs qui leur tombent dessus, des Grecs qui viennent de Grèce mais qui viennent aussi d'Égypte parce que l'Égypte est conquise par les Grecs. Les Romains et voilà. Alors, du coup, nous allons prendre l'autre feuille. Nous voyons que c'est le psaume 21, ou 22 suivant les calculs, on le laisse. Maintenant, on prend infobretagne.com que j'ai pris tout à l'heure. Alors j'espère que c'est... Non, ça me semble tout à fait correct, mais c'est amusant. Voilà. Et nous verrons à deux reprises cela. Sans référence et avec référence. Les prophètes et prophéties. Souscription pour l'achat d'un orgue à tuyaux à Saint-Michel-en-Grève. Je n'ai pas eu le temps de le retirer. Les prophètes étaient des hommes de Dieu que Dieu inspirait et qu'il envoyait aux rois et aux peuples pour les rappeler au devoir et leur faire connaître des événements futurs qui pouvaient être prévus, qui ne pouvaient être prévus naturellement. Les patriarches Adam, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph furent autant de prophètes au sens large. Pourquoi ? Dieu leur parle et leur annonce le futur. Quand il dit à Abraham, ta descendance sera comme le sable de la mer, excusez-moi, mais actuellement sur 7 milliards d'hommes, il y en a environ 4 milliards qui sont de tradition biblique, ça fait pas mal. Or, voyez-vous, un scientifique, un athée, un agnostique devrait quand même se poser des questions. Comment ça se fait qu'il a été dit à cet homme, et on a des manuscrits suffisamment anciens avant le succès, n'est-ce pas, de cette religion, c'est quand même effarant. C'est un miracle spirituel. Le fait que la religion d'Abraham ait conquis la moitié du monde en 1700 années quasiment, en 3700 années, c'est effarant. C'est un signe de crédibilité de la foi chrétienne. Vous dites, oui, mais enfin, il y a des millions de bouddhistes. Et oui, mais ils sont dans leur pays. Mais il y a des centaines de millions d'hindous. Oui, mais ils sont dans leur pays. Tandis que des chrétiens, et j'ose dire des musulmans parce qu'ils s'inspirent énormément de la Bible, aux deux tiers, mais c'est la religion biblique. Donc il y a quelque chose quand même. Au point de faire des émissions, les enfants d'Abraham, n'est-ce pas, où vous avez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Seulement, à un moment donné, lorsqu'on est sincère et en recherche de vérité, on ne peut pas tout le temps prendre uniquement le plus petit dénominateur commun. Dieu existe. Oh, mais merveilleux. Dieu a parlé aux hommes. Oh, mais c'est extraordinaire, on est tous d'accord. Dieu a parlé à Abraham. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Oh, oh, champagne. Ensuite, il a annoncé un sauveur. Oui, oui, oui. Il est venu? Oui, non, pas... plouf. Donc, on verra d'ailleurs que pour les musulmans, Jésus est le Messie. Il a le titre de Messie contre le Dajjal, le mauvais prophète, le mauvais Messie, le faux Messie. Donc Jésus, en tant que prophète, mais pas en tant que fils de Dieu, et en tant qu'il n'est pas mort sur la croix, va, à la fin des temps, terrasser l'Antéchrist. Vous voyez ? Ça, c'est la théologie musulmane. Jésus va revenir à la fin des temps pour terrasser le faux Messie, le Dajjal. Eh bien, cela, c'est un emprunt, bien sûr, à la révélation chrétienne. Le retour du Christ à la fin des temps. Tout ça, pourquoi ? Ben pour séduire les chrétiens au 7e siècle, hein, parce que vous n'allez pas du jour au lendemain leur dire, au fait, maintenant, vous pouvez être polygame, maintenant, il faut à nouveau plus manger tel aliment, il faut plus boire d'alcool, mais ça, justement... C'est tout particulier par rapport à la messe. Il ne faut pas boire d'alcool, il n'y a plus de prêtrise, alors il n'y a plus de messe. Puisqu'on prend le vin. Et la Vierge Marie est confondue avec la femme de Moïse, Mariam, mais qui est aussi la mère de Jésus quand même. Et Tout cela est dans une certaine confusion. Il faut que nous allions jusqu'au bout du dialogue interreligieux pour arriver jusqu'à la vérité. Les patriarches furent autant de prophètes chargés d'annoncer quelques-uns des caractères du Messie promis dès l'origine du monde. Sa descendance de la femme t'écrasera la tête. Et on représente la Vierge Marie qui écrase la tête de Lucifer. Et ça, c'est beau. Ipsa te conteret, hein, crac. On compte jusqu'à 72 prophètes de l'Ancien Testament. Les prophéties se rapportent à trois points principaux. Par rapport au Sauveur, au Messie, à celui qui doit être envoyé. 1. Au peuple juif, qu'est-ce qui va lui arriver? Et aux nations étrangères, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va devenir juif? Est-ce qu'on va rester païen? Mais les prophètes n'arrêtent pas de dire que toutes les nations païennes vont devenir de religion juive et messianique et du Christ. Mais enfin, ils le disent alors que c'est un tout petit pays envahi à gauche, à droite et sans arrêt. Non mais c'est une blague. Quand vous lisez les psaumes, ils disent « Toutes les nations viendront en Sion, ça sera merveilleux, Jérusalem dominera le monde entier. » Enfin, on est en plein les années 700, n'est-ce pas, ou même les années 900, les années 1000, quand ce sont les prières de Salomon, enfin de David, de Salomon et de prêtres du temple. Et là, vous avez l'armée assyrienne qui arrive, qui tue tout le monde. Vous avez l'armée babylonienne qui tue tout le monde. Enfin, c'est très très prétentieux comme prière. Mais on va être triomphé, ça va être merveilleux. Toutes les nations du monde vont venir. Oui, mais eh bien maintenant, en 2016, vous avez des Chinois, des Japonais, des Africains, qui viennent à Jérusalem pour prier sur les traces du Christ. Donc les prophéties sont accomplies. Et puis c'est tout. Vous voyez? Alors, saint François d'Assise ne serait pas content. Mais quelqu'un pourrait jeter un caillou à ce chien? Je suppose qu'il a un maître, mais bon. Chez le peuple juif, le ministère prophétique ne fut jamais, comme le sacerdoce, le privilège d'une tribu ou d'une famille. Dieu choisissait lui-même ses envoyés. Leur vie, austère et pénitente, s'écoulait dans la solitude et la prière. Pas toujours, hein. Parfois il y avait des prophètes qui étaient mariés. Voilà. Mais il y avait des prophètes de la tribu de Zébulon, de la tribu de Nephtali, de la tribu de Gad. Enfin, c'était pas toujours des prêtres. Plusieurs prophètes n'ont laissé aucun écrit. Donc, tout a été raconté par des prêtres ou des scribes. Élie et Élisée, c'est dans le livre des rois. L'histoire, justement, du schisme de Juda et d'Israël. Bien que leur influence ait été considérable dans la lutte contre l'idolâtrie sous les rois d'Israël. Les prophètes dont nous possédons les écrits sont nommés grands prophètes ou petits prophètes, selon l'étendue des écrits qu'ils ont laissés. Les grands prophètes, ils sont au nombre de 4, et parfois dans les églises, vous avez les représentations des 4 grands prophètes. Isaïe, 700 ans avant Jésus-Christ environ, 750-730, vécut sous les règnes d'Akaz et d'Ézéchias. Ces prophéties ont pour objet les Juifs et leurs ennemis. La mission de Cyrus et la vie et la mort du Messie et son règne éternel. Efficace. Oui. Donc Cyrus, la mission de Cyrus. Qui est Cyrus? C'est un Perse qui va faire revenir le peuple juif à Jérusalem. Jérémie, qui lui a vécu, a été tué lors de l'exil de Babylone. Les Juifs n'étaient pas du tout contents, les Juifs du Nord. Jérémie leur disait, c'est à cause de vos péchés, ne bougez pas, plus vous bougerez, plus vous aurez de morts, soyez tranquilles. Non, on va partir en Égypte devant les Babyloniens. Ils sont partis en Égypte, ils se sont fait couper en petits morceaux, et Jérémie, ils l'ont lapidé. Mais Jérémie a accompagné le reste de la famille royale et les fugitifs pour ne pas les abandonner. Voilà. Au milieu des ruines de sa patrie, il chanta ses lamentations. L'Église les lui emprunte. Donc lui, il vécut à Jérusalem de Josias et Ézéchias. Au temps de la Passion, on prend les plaintes de Jérémie. Pourquoi ? Son secrétaire était le prophète Baruch, il est là. Déjà, il y a des destructions à Jérusalem. Il voit les femmes juives qui sont dans la famine, qui nourrissent à peine leurs enfants, des décombres partout. Il dit, mais comment le vrai Dieu peut-il abandonner son peuple à ce point-là ? Donc, le jour où nous serons à la fin des temps, et que nos églises seront détruites, que vous cacherez les prêtres dans les placards, comment dire, ceux qui auront survécu, et qui vous célébreront la messe, comme ils pourront, eh bien, vous pourrez prendre les descriptions de Jérémie et dire, ah mon Dieu, ah, c'est terrible, c'est épouvantable. Les Vendéens, eux, savaient exactement ce que voulait dire Jérémie. Voilà. Ézéchiel, lui, est un prophète qui est à Babylone. Jérémie, lui, est à Jérusalem et puis il fuit devant l'armée babylonienne et il est assassiné. Sauf erreur de ma part, Isaïe a été coupé en deux. À la scie, en bois, pas en métal, par les impies. Voilà. Ézéchiel fut transporté à Babylone avec le roi Jéconias après la ruine de Jérusalem et la destruction du temple. Eh bien, il prédit la restauration de Jérusalem et le règne du Messie. Quand les prophètes sont là en disant « vous méritez ce qui arrive », bon, mais Dieu est bon. Vous voyez, ils sont au milieu d'une ville en ruine, le temple qui est le cœur de leur foi est détruit. Jérémie a caché l'Arche d'Alliance. Ils sont partis avec les prêtres, imaginez. Et Jérémie les a fait tourner dans les montagnes. Et à un moment donné, ils sont arrivés à une grotte. Ils ont mis l'Arche d'Alliance dans la grotte. Ils ont éboulé devant la grotte tout ce qu'ils pouvaient. Et Jérémie les a fait tourner dans les montagnes. Et il n'y en a pas un qui se souvenu du lieu exact. Parce que Jérémie avait pour mission de cacher l'Arche d'Alliance. Je n'ai pas beaucoup de prophéties ou d'annonces pour la vision de l'Arche d'Alliance à la fin des temps. Il n'empêche que vous avez Steven Spielberg, qui est un juif extrêmement, religieux dans sa pensée, et qui, s'il a fait un de ses Indiana Jones sur l'Arche d'Alliance, c'est à cause de ça. Quand il a fait la rencontre du troisième type, parce qu'il pense qu'il fait partie d'une secte au milieu du peuple juif qui pense que ce sont des extraterrestres qui ont parlé à Abraham et à Moïse. Fermons le banc, hein, c'est une secte. Hein. Enfin, à un moment donné, quand j'écoutais, il y avait un rabbin sur 94.8 Radio Judaïque FM qui disait quelque chose d'un peu approchant. Hein, donc, t'as l'air de dire qu'il y avait eu un contact particulier entre des êtres surnaturels et les hommes. Inutile de vous dire que c'est faux. Voilà. Mais voyez-vous, pour Steven Spielberg, c'est une obsession et il se dit que cette Arche d'Alliance a des pouvoirs magiques. Non, ce sont des pouvoirs d'histoire religieuse forte. Daniel, aussi, dans les années 500, fut d'abord captif à Babylone, puis il entra à la cour de Nabuchodonosor, où il mérita la confiance du roi et acquit une grande influence. Il prédit la chute de la famille babylonienne en disant « Les Perses vont vous couper en dés. » Bon. Ensuite, il dit aux Perses « Les Grecs vont vous couper en dés. » Bon. Et il dit aux Grecs « Les Romains vont vous couper en dés. » C'est la vision de Daniel, qui est la vision du géant. Ou au pied d'argile. Vous voyez, le géant au pied d'argile, c'est la vision de Daniel, où on dit qu'il y a Babylone, enfin les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Alors Daniel, lui, priait beaucoup. C'était un saint juif. Et donc il est là en Babylonie. Il prie, il dit « Mais quand est-ce que, Seigneur, vous allez sauver votre peuple, le sortir de cette opprobre ? Et quand est-ce que vous allez faire venir le Sauveur, le Messie ? Mais quand, n'est-ce pas ? » Alors, Dieu, ne pouvant plus dormir, finit par lui envoyer, semble-t-il, hein, c'est Gabriel, je crois, l'archange Gabriel, qui a la mission de l'incarnation. Gabriel apparaît à Daniel et lui dit « Eh bien, tu es un homme de désir, tu es un homme de passion. Eh bien, je t'annonce de la part de Dieu que le Messie va venir dans 70 semaines d'années. » Alors là, Daniel prend une petite tablette avec un stylet, dit « Alors, 70 semaines, ça fait 70 fois 7 fois 1 an. Ça fait 490 ans. Ça lui fait une belle jambe de se dire que dans 500 ans, le Messie va venir. Il doit se dire, est-ce que je vais vivre aussi longtemps qu'Élie ? Pas probable. Peut-être, car je suis un grand prophète. En tout cas, il est mort, Daniel, avant d'avoir vu cela. Par contre, il l'a annoncé. Et à votre avis, pourquoi du temps de notre Seigneur, on était en pleine ébullition ? À Jérusalem, en Judée, en Galilée. Parce que la prophétie de Daniel s'achevait. On était dans les temps messianiques. Vous voyez ? Et c'est pas anodin, quand même. Alors, bien sûr, vous avez les exégètes, mes amis, qui vont vous dire, oui mais non, Daniel a pas vécu à ce moment-là. Si on compte comme si, alors il aurait vécu 150 ans à force de dire à quel moment il a vécu, tout ça, sa prophétie, mais ça a été inventé, ça a été dit après, tout ça. Eux-mêmes ont-ils existé, ces exégètes ? Un jour, vous voyez, quand ils seront morts, 50 ans après leur mort, on dit, est-ce qu'ils ont existé ? Est-ce qu'ils ont fait ce livre ? Est-ce qu'il a vraiment été édité ? Les 70 semaines d'années qui devaient se terminer à la naissance du Sauveur. David est considéré aussi comme un grand prophète, le roi David. Dans ses psaumes, il prédit la vie, les humiliations et les grandeurs du Messie. Les petits prophètes au nombre de 12 sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, on connaît bien Jonas, Michée et Nahum, qui vécurent entre le schisme et la captivité.